Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'église de Saint-Vincent Ferreri, un joyau du style baroque et néoclassique au cœur de Carigny. Ce guide a été réalisé par l'association Jonathan Livingstone ODV avec le parrainage de la municipalité de Carigny grâce au fonds du plan national de relance et de résilience du ministère de la Culture, inclus dans la mission 1, numérisation, innovation, compétitivité, culture et tourisme, et composante 3, tourisme et culture 4.0. L'église, édifiée entre 1610 et 1620, à la volonté de Vincenzo Truerel à Grua-Talamanca, suite à la fermeture du monastère de San Mercurio, lieu insalubre à cause du paludisme, fut dédiée à Saint Vincent Ferreri, frère dominicain espagnol, symbole de dévotion et de protection. Sa construction fut soutenue par le peuple à travers une taxe sur le blé et la viande, témoignage du lien entre la communauté et la foi. Au XVIIIe siècle, l'édifice subit une importante rénovation acquérant l'aspect d'un néoclassique visible aujourd'hui. L'intérieur, en effet, fut rénové à la fin du XVIIIe siècle avec une riche décoration en stuc blanc et doré. Festons, poutis et grotesques, réalisés par le décorateur Tommaso Firiolo en accord avec le goût néoclassique de l'époque. La façade se présente sobre et élégante et reflète le style de la Renaissance tardive sicilienne. Elle présente le style classique à pignon monocuspide, simple mais élégant, avec une composition symétrique. Elle est caractérisée au centre par le portail d'entrée qui est réalisé en pierre de grès locale travaillée, doté de bases et de chapiteaux simples, et d'un linteau mouluré surmonté d'un tympan brisé avec des volutes encadrées par des pilastres verticaux, au-dessus duquel, à l'intérieur d'une niche, est placée une statue en pierre de Saint Vincent Ferreri. Au-dessus du portail s'ouvre une fenêtre rectangulaire avec un cadre en pierre qui correspond à l'entrée originale de l'église avant l'abaissement du niveau de la rue. La porte en bois, à deux battants, est historique, probablement en bois massif décoré de panneaux. Aujourd'hui, elle est protégée par une grille ajoutée en fer forgé. Adossée au côté gauche de l'église se trouve l'ancien couvent des Dominicaines, aujourd'hui une école, qui s'intègre à la façade sans solution de continuité. Le reste de la façade est enduit et dépourvu d'ornements, délimités aux angles par des pilastres d'angles à peine esquissés qui soutiennent une corniche sommitale linéaire. L'ensemble apparaît sobre et proportionné, cohérent avec l'esthétique néoclassique post-baroque de la rénovation du XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, l'église subit une importante altération structurelle liée à la voirie urbaine. Durant le XIXe siècle, le niveau du sol devant l'église fut abaissé pour la création de la nouvelle voie. L'actuel Corso Umberto Ier. Cet abaissement du niveau de la rue fit que l'entrée originale de l'église se retrouva surélevée par rapport au nouveau niveau de la rue. Pour remédier à ce dénivelé, on intervint sur la partie avant de l'édifice. Une salle d'accès et un vestibule furent insérés devant la nef, créés en réduisant l'ampleur originale de l'église. Et un escalier intérieur fut réalisé reliant le nouveau niveau du sol au niveau de la rue avec le niveau de la nef historique. Par conséquent, la porte d'entrée fut adaptée, le seuil fut abaissé et le portail fut en partie modifié pour s'aligner avec le nouveau niveau de la rue. Aujourd'hui, on accède à l'intérieur en montant l'escalier intérieur, solution nécessaire suite aux travaux du XIXe siècle. Cette transformation a altéré les proportions originales de la façade dans la partie inférieure, bien qu'elle soit bien intégrée. De l'extérieur, le changement est peu visible, tandis qu'à l'intérieur, on remarque le dénivelé résolu par l'escalier. Ces interventions témoignent de l'adaptation de l'église à l'évolution de la structure urbaine, sans toutefois bouleverser son identité historique. Mais maintenant, chers visiteurs, je vous invite à entrer et à découvrir ce splendide trésor. On accède à la nef centrale par un escalier réalisé au XIXe siècle, après l'abaissement du niveau de la rue du Corso Umberto Ier. En montant les escaliers, réalisés en pierre calcaire locale, on atteint la nef unique de l'église. Et la perspective créée par l'escalier guide le regard vers l'autel, créant un sens de profondeur. L'église a un plan à salle unique couverte par une voûte en berceau à lunettes. Elle ne présente pas de transept prononcé, se configurant essentiellement comme une nef rectangulaire se terminant par une abside quadrangulaire. En levant le regard vers le haut, on admire une splendide tribune fermée par une grille en fer forgé avec une dense trame géométrique en losanges et décorée de motifs floraux et d'une colombe représentant l'Esprit-Saint placée au centre. La grille, qui délimite la tribune, autrefois réservée aux religieuses cloîtrées, domine la scène de la contrefaçade. Les murs autour de la tribune sont enrichis de stucs blancs avec des inserts dorés. On reconnaît des guirlandes de fleurs et de fruits. symboles d'abondance spirituelle et des grotesques, figures hybrides avec des végétaux stylisés, typiques de la Renaissance tardive. Deux colonnes toscanes en marbre blanc soutiennent la loggia. Les surfaces lisses et les chapiteaux de style dorique reflètent un style sobre, typique du XVIIe siècle sicilien. Au fond à droite se trouve la roue des legs, une roue réalisée en bois et historiquement utilisée pour les dons aux religieuses. De forme circulaire avec des rayons sculptés, c'était un moyen de recevoir des offrandes sans contact direct, garantissant la clôture. La roue des legs, aujourd'hui inactive, est un vestige rare qui raconte la vie claustrale et le mécénat populaire. La tribune, quant à elle, représente un exemple bien conservé de la façon dont l'architecture sacrée faisait la médiation entre fonctions pratiques et langage symbolique. Sous la tribune, on remarque une grande fenêtre placée au-dessus de l'escalier. En réalité, c'est la première porte d'accès à l'église, avant que le niveau de la rue ne soit abaissé. À gauche de l'escalier est placée la toile de Giuseppe Patania, de 1835, représentant Marie, Saint-Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix. Unique tableau survivant des graves vols que subit l'église. Le tableau présente le Christ crucifié avec la tête inclinée en arrière, les yeux tournés vers le ciel et la bouche entrouverte tandis qu'il exhale son dernier souffle. Autour de la croix se trouvent la Vierge, Saint-Jean et Marie-Madeleine, représentées comme des figures affligées participant à la scène. Cette description met en lumière l'intensité dramatique voulue par l'auteur. Patania capture le moment où le Christ expire, entouré par la douleur composée de sa mère, de l'apôtre fidèle et de la disciple pénitente. En regardant vers l'autel, ce qui frappe le regard est le pavement réalisé avec des marbres polychromes incrustés, connus dans le domaine baroque sicilien sous le nom de « marbre mixte ». Ce terme indique l'utilisation de différents types de marbres juxtaposés pour former un unique dessin décoratif. La technique utilisée est rattachable à l'ancien opus sectile, c'est-à-dire l'art de couper des dalles de marbre en forme précise pour créer des motifs ornementaux continus. À l'époque de la Renaissance et du Baroque, cette technique prend le nom de commesso marmoreo et représente l'une des formes les plus prestigieuses de décoration de pavement. La technique du commesso nécessitait des artisans spécialisés. Les dalles de marbre devaient être réduites en feuilles minces, puis découpées selon des formes bien définies, et enfin posées en juxtaposant les pièces de manière à rendre les jointures presque invisibles. Les motifs ornementaux visibles, tels que les spirales florales stylisées, les rosettes et les figures géométriques interconnectées, rappellent le répertoire typique du baroque mur, mais organisé selon des symétries axiales et des schémas plus ordonnés, caractéristiques du goût néoclassique naissant. Au-delà des aspects décoratifs, le pavement incorpore des motifs iconographiques et symboliques liés à l'ordre monastique. Les dominicains ont comme emblème l'étoile à huit pointes, qui est souvent reportée dans le pavement avec les couleurs blanc-noire qui représentent l'habit de l'ordre. À proximité de l'autel se trouve un grand médaillon central avec un chien tenant dans sa gueule une torche, un symbole dérivé d'un jeu de mots sur Dominicans, chien du Seigneur, se référant aux dominicains comme défenseurs de la foi. La nef centrale de l'église se présente comme un espace harmonieux et raffiné, caractérisé par une décoration rigoureusement symétrique, où le blanc domine et est embelli par des reliefs dorés et des stucs à motifs floraux et géométriques. Les éléments architecturaux et décoratifs confèrent à l'environnement un sens de solennité en accentuant la verticalité de l'édifice. Les murs sont rythmés par des pilastres cannelés avec des chapiteaux corinthiens qui créent un effet d'ordre et de rythme visuel. Entre les pilastres, des panneaux décorés avec des motifs floraux raffinés et des volutes, typiques du style néoclassique, alternent des panneaux lisses avec ceux ornés dans un jeu de plein et de vide qui évite l'excès décoratif baroque. Les arcs des chapelles latérales sont décorés de reliefs floraux en stuc blanc et gris qui encadrent élégamment les niches avec des statues et des peintures sacrées. Ce type de décoration, bien que dérivant du baroque, montre une influence néoclassique avec sa recherche d'équilibre et de symétrie. La voûte en berceau de l'église est l'une des parties les plus spectaculaires de l'édifice et reflète pleinement l'habileté décorative de Tommaso Firiolo, élève de l'école de Serpota, qui a fait preuve ici d'une extraordinaire maîtrise des stucs et de la composition décorative. La voûte est divisée en panneaux modulaires parfaitement encadrés par de fins reliefs géométriques dorés, qui créent une trame décorative extrêmement ordonnée et symétrique. Cette subdivision en caissons rectangulaires dosés carrés rappelle l'art classique, avec une évidente influence du néoclassicisme sicilien du XVIIIe siècle. Chaque panneau de la voûte contient une décoration florale finement sculptée en stuc avec un motif central de rosace. Le long des bords de la voûte se trouvent des cadres à caissons qui renforcent l'effet tridimensionnel et guident le regard le long de la nef vers le presbytère. Au-dessus d'eux, sur le côté gauche, quelques fenêtres avec des grilles, d'où les sœurs de clôture assistaient aux fonctions. Sur le côté droit, les mêmes grilles encadrent des fenêtres de lumière. À l'intersection de la voûte avec la zone absidale se trouve une fresque octogonale représentant une scène sacrée qui se distingue par ses tons délicats et son rendu perspectif, parfaitement intégré à l'architecture. Chers visiteurs, je vous invite maintenant à vous rendre dans la première chapelle située à gauche du corps d'escalier. La première chapelle latérale, en entrant sur la gauche, revêt un intérêt historico-artistique particulier. Elle est vraisemblablement dédiée à saint François de Paul, ermite calabrais du XVe siècle très vénéré dans le sud, et conserve son effigie. Sur l'autel de la chapelle se distingue en effet un buste en bois polychrome représentant saint François de Paul, œuvre de l'école sicilienne datable de la fin du XVIe siècle. Le buste sculpté en bois et peint représente le saint avec la caractéristique bure sombre de l'ordre des Minimes et la barbe fluide selon la tradition iconographique. Le regard est tourné vers le haut en extase et sur le visage se listent des traits d'intense expressivité. Signe de l'habileté sculpturale et de la dévotion avec laquelle l'œuvre fut exécutée. Cette sculpture, contemporaine de la fondation de l'église, constitue un rare exemple d'art dévotionnel de la Renaissance tardive encore in situ. Autour de l'autel, le cadre architectural de la chapelle présente des pilastres et des chapiteaux ioniques soutenant un arc, également décoré de stuc en continuité avec le reste de la nef. L'espace entre la première et la troisième chapelle de l'église de Saint-Vincent Ferreri de Carigny se présente comme une zone richement décorée en stuc polychrome et doré, avec de fortes connotations liturgiques et symboliques. Il s'agit d'une solution typique de l'art baroque et néoclassique, avec un usage scénographique de l'espace pour encadrer des symboles religieux. Au centre se trouve un grand blason ovale surmonté d'une décoration avec des feuilles de palmiers et des volutes dorées. Le blason est soutenu par deux figures angéliques en stuc, immergées dans des nuages qui accentuent le dynamisme de la composition. À l'intérieur du blason est représenté l'Agnus Dei, un agneau couché avec une auréole qui tient la croix et symbolise le Christ comme agneau de Dieu qui se sacrifie pour la rédemption du monde. Cet emblème est traditionnellement associé au culte de l'Eucharistie et à la Passion du Christ. Sous le cartouche, on remarque une grande grille en fer forgé, élément typique des églises conventuelles qui servait à séparer la nef, accessible aux fidèles des espaces réservés aux religieuses dominicaines cloîtrées, qui pouvaient assister aux fonctions sans être vues. La troisième chapelle est aujourd'hui dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Dans cet espace était placée autrefois l'une des toiles dérobées attribuée à Giuseppe Patania. Mais maintenant, je vous invite à poser votre regard sur la zone du presbytère. L'espace est somptueux et parfaitement intégré à la nef centrale. Ici, la décoration atteint son apogée avec un jeu de colonnes, de niches et de reliefs qui encadrent le maître-autel. Le maître-autel est dominé par la majestueuse toile Madone en gloire et sainte d'Antonio Mano, élève de Vito d'Anna, remontant à la fin du XVIIIe siècle. La Vierge Marie est représentée dans une position élevée, enveloppée d'une lumière dorée qui simule la gloire céleste. Autour d'elle, un chœur de saints et d'anges se dispose dans un équilibre baroque dynamique, avec des gestes d'adoration et des regards dirigés vers le divin. Les saints latéraux, reconnaissables par les attributs iconographiques, livres, palmes du martyr, vêtements monastiques, représentent des figures liées à l'ordre dominicain et à la dévotion locale. La palette chromatique est riche en tons chauds, l'ocre, le rouge pourpre, l'or, typique du style baroque tardif sicilien, avec des coups de pinceau qui exaltent le drapé des vêtements et la profondeur spatiale. La toile est encadrée par une structure en stuc blanc et doré, décorée de motifs à feuilles d'acanthe et de vrilles, symbole d'abondance spirituelle. La composition est composée de deux colonnes latérales adossées au mur en style classique, se terminant par des chapiteaux corinthiens, qui soutiennent un entablement. Sur celui-ci sont posés deux anges placés aux côtés du cadre. Les dorures, finies à la feuille d'or, captent la lumière naturelle, créant un effet de sacralité vibrante. En haut, au centre, est insérée dans une guirlande de nuages d'où se penche de des putti, une colombe dorée, symbole de l'Esprit-Saint. L'autel, réalisé en marbre polychrome, est surmonté d'un arc triomphal en stuc qui encadre la scène et relie visuellement la nef au chœur. Au pied de l'autel est placée la tombe de Sœur Caterina Alias. Sœur Rosaria Caterina Alias, née Caterina Alias, vécut entre les XVIIe et XVIIIe siècles et est étroitement liée à l'histoire du monastère dominicain, annexé à l'église de Saint-Vincent Ferreri de Carani. Née à Palerme en 1668 dans une famille noble, elle entra très jeune parmi les religieuses cloîtrées à Carini, défiant les résistances de la famille et qui auraient voulu pour elle un autre destin. Dans le monastère de Carini, Sœur Caterina, qui en religion prit le nom de Rosaria Caterina de Jésus, se distingua par sa piété et sa pénitence extraordinaire. Les sources la décrivent comme une religieuse de vertu exceptionnelle. Elle fleurit dans le monastère de Saint-Vincent et fut un rare exemple par sa vie religieuse et pénitente. Elle mourut avec une réputation de sainteté. Sa sainteté personnelle eut aussi des effets concrets sur la communauté. Antonino Mongitore, dans le Compendium de la vie et des vertus de 1718, raconte un épisode significatif survenu à Carini. Une jeune fille tout du couvent, Serafina Honorata, désirait prendre les vœux, mais était dépourvue de la dot nécessaire. Sœur Rosaria Caterina intervint avec ses prières et, selon la chronique, obtint l'aide divine qui permit à la jeune fille de devenir religieuse.